Et il est dit qu'il les envoya. Donc après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est une prière de Jésus quand même. Hein ? C'est pas le pasteur, c'est pas un frère qui prie là, c'est Jésus. Il dit, priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. Et vous dites ?
Amen.
Amen. Et oui. Alors les ouvriers, c'est qui ? C'est bien. C'est une bonne église, hein ? Non, parce que d'habitude, j'ai l'impression que les gens, ils croient que les ouvriers, c'est les pasteurs. Et que les autres, ils regardent les pasteurs et ils attendent que les pasteurs travaillent. Hein ? Et le Seigneur, non, ne nous appelle pas à ça. Les ouvriers, c'est les hommes, les femmes. Vous savez qu'il y a des grandes discussions sur est-ce que la femme doit prêcher ou pas prêcher. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat, je vous rassure. Mais en tous les cas, quand on regarde le terme original pour prêcher, c'est le mot « kéruso » en grec, qui signifie « porter la bonne nouvelle ». Et moi, je vous pose la question, est-ce que les femmes ont le droit de porter la bonne nouvelle ? Vous n'avez pas le droit, tu prendras le gauche. Sauf si c'est le Seigneur qui l'avait dit quand même. Mais le Seigneur, il nous appelle tous. Et prêcher la bonne nouvelle, c'est ouvert à tous. Et c'est même, on va le voir, notre responsabilité. Le pasteur, j'étais encore à une réunion mardi, pas plus tard que mardi dernier. On avait un rassemblement de plusieurs églises sur Toulouse. Et il y a quelqu'un qui a encore prononcé ce mot. On est heureux d'accueillir les églises et d'accueillir les serviteurs de Dieu dans les églises et d'assister les pasteurs. Et là, moi, à chaque fois, je boue à l'intérieur et je dis, bon, d'accord, les pasteurs sont les serviteurs et les autres, ils sont quoi ? Ils sont quoi, les autres ? Ils sont serviteurs aussi. D'accord ? On est d'accord avec ça ? Et il faut arrêter d'appeler les pasteurs les serviteurs de Dieu. Ça, c'est un truc qui me... Alors, on est, vous vous trompez pas quand vous dites qu'on est les serviteurs de Dieu. Mais la manière dont on dit, on a l'impression que c'est nous, quoi. Si on, il y a aussi cette notion, je vais m'égarer un peu, mais rapidement, quand on dit, il sert le Seigneur à plein temps. Et les autres ? Mais tout le monde sert le Seigneur à plein temps, oui ou non ? Quand vous allez sur votre lieu de travail, vous servez le Seigneur. Quand vous êtes chez vous, vous occupez de votre famille, vous servez le Seigneur. Amen ? On est tous serviteurs, et on est tous appelés à être des ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu, Jésus, pardon, lui-même, il n'a pas dit, pourtant il aurait pu, hein. Jésus aurait pu dire, je vais me débrouiller tout seul, moi. Je suis trop fort. Non, il s'est entouré. Il s'est entouré d'hommes et de femmes. On ne parle pas beaucoup des femmes, elles sont citées, mais il y avait des femmes avec lui. Et elles faisaient du boulot. Je peux vous prier de croire que derrière... elles assuraient l'intendance, elles assuraient que tout se passe bien. 70. Il les envoie, et vous remarquez, il les envoie deux par deux. Jamais tout seul. L'œuvre de Dieu, c'est jamais tout seul. Les gens que je croise et qui me disent « Oh, moi, je n'ai pas d'église, pasteur. Je suis l'église universelle. » J'aime bien. J'aime bien. Mais moi, je veux travailler avec les frères et sœurs. Je veux vivre la communion fraternelle. Et le seul endroit où on peut le faire, c'est l'église locale. On l'aime, on ne l'aime pas. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'avoir des tas d'âmes. Il y a une église locale près de chez toi, tu vas, tu t'intègres et tu travailles avec les frères et sœurs. Amen. C'est ça, c'est ce à quoi on est appelé. Le Seigneur, dans toute la parole de Dieu, vous voyez Paul, par exemple, le nombre de fois où dans les épîtres, il utilise l'expression « compagnon d'œuvre ». Mais compagnon d'œuvre. Le nombre de personnes dans les salutations, je pense à l'épître aux Romains notamment, ou c'est peut-être là où c'est le plus long, où il cite toutes les personnes à qui il travaille. D'ailleurs, dedans, il y a des hommes et des femmes. Hein. Il y a les deux. Et un travail d'équipe. Des hommes de Dieu qui savaient déléguer le travail, répartir le travail. C'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est la question de la délégation. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, on va voir que Moïse, le super-héros, va se faire remettre en place par son beau-père. Vous connaissez ce passage ? Et Jéthro va donner d'excellents conseils à son gendre. On lit au chapitre 18 à partir du verset 13. On va lire pratiquement jusqu'à la fin du chapitre. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout ce peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas pour l'argent. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établit chefs du peuple, chefs des 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Amen. C'est tout simplement une question de sagesse, d'intelligence et de bon sens. C'est ce qu'avait Jéthro, de la sagesse, du bon sens. Vous savez, quand on est soi-même impliqué dans quelque chose, parfois, comme on dit, on a la tête dans le guidon, et on n'a pas un regard extérieur pour voir les fonctionnements qui peuvent dysfonctionner, justement. Et Jéthro repère que Moïse, il en fait beaucoup trop. Il en fait beaucoup trop. Et une phrase, moi, qui m'a toujours interpellé en tant que pasteur, c'est « Si tu te fatigues, tu vas fatiguer les autres. » Évidemment, quand moi je me lève pour servir le Seigneur, je ne me suis pas levé pour fatiguer les gens. Je n'ai pas envie de fatiguer les gens. Peut-être que ça m'arrive parfois malgré moi, mais en tous les cas, ce n'est pas mon intention et ce n'est pas mon objectif. Et je ne pense pas que ce soit celui de Michael ni d'aucun pasteur. Mais parfois, on peut le faire parce que la charge est trop lourde. Et la responsabilité des frères et sœurs dans l'Église, c'est de pouvoir décharger le serviteur de Dieu et prendre des responsabilités. Donc c'est à lui de former des équipes autour de lui, et le serviteur de Dieu a sa responsabilité aussi. Mais j'ai travaillé dans des œuvres où vous essayez de déléguer, mais il n'y a personne qui veut le faire. Vous trouvez personne qui soit spirituellement assez ancré dans le Seigneur. Et je crois que c'est à chacun de nous de se placer devant Dieu, on va le voir tout à l'heure. Quand on se lève pour servir, c'est en réponse à un appel du Seigneur. Mais il faut que vous sachiez que le Seigneur appelle ceux qui ont envie de le servir. Si vous n'avez pas envie, le Seigneur ne va pas vous appeler. Il y a un désir dans le cœur, une soif. Et une soif, on va le voir aussi, de servir, point. C'est-à-dire, Seigneur, moi je veux faire ça. Non, Seigneur, je veux te servir. Voilà ma vie. Et on attend les instructions du Seigneur. Et quand elles viennent, eh bien on le fait. Et ainsi, eh bien, il y a une répartition de la tâche qui fait qu'il n'y a personne qui s'épuise. Et dans l'Église, vous le savez tous comme moi, ceux qui vivent depuis longtemps dans le service du Seigneur, dans les Églises, vous avez tous vu des gens s'épuiser. Pas seulement des pasteurs d'ailleurs, parce que parfois c'est des frères et sœurs de l'Église qui sont de bonne volonté et qui se tapent tout le boulot parce que personne ne veut rien faire. Ils sont là à côté du pasteur, ils triment, mais ils ont aussi leur vie de famille, ils ont aussi leur travail, ils ont plein de choses à gérer, et au bout d'un moment, pof, on voit la personne qui s'écroule. Et là, en plus, elle est jugée. Ah, rétrograde, il est parti. En fait, on l'a épuisé. J'ai dans mon église des personnes qui ont été hyper investies dans l'Église. Aujourd'hui, elles ne veulent plus rien faire. Elles sont fatiguées. Fatiguées, on les a épuisées. Et mes frères et sœurs, la seule solution pour qu'on ne vive pas cela, ça ne dépend pas du pasteur, ça dépend de chacun. Chacun doit être à la place que Dieu lui a confiée. Si chacun remplit son rôle, personne ne se fatigue. Si toutes les responsabilités tombent toujours sur les mêmes personnes, d'ailleurs en tant que pasteur, je pense que Michael le fait aussi, moi je veille, au bout d'un moment, j'ai dit à des personnes, non, stop, tu as déjà deux responsabilités dans l'Église, tu n'en auras pas une troisième. Parce que quand vous dites, on a besoin, vous avez toujours les mêmes qui viennent vous voir, en disant, ok, moi je peux aider. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Et il faut que les charges se répartissent. Et il faut qu'il y en ait au bout d'un moment qui réalisent, ben, oui, je ne crois pas que le Seigneur nous a envoyés pour venir à l'Église, nous asseoir sur une chaise, écouter, chanter, et repartir chez soi, et faire ce ronron pendant des années. Hein. Donc au début qu'on se convertit, oui, ok, on vient à l'Église, on écoute, on apprend, puis petit à petit, on va avoir le désir d'aider, de s'investir, et on va répondre aux besoins. Quand un besoin est énoncé, on va dire, ben, écoutez, moi je ne sais pas si je suis capable, mais s'il y a besoin, je suis là. Et puis si chacun se sent appelé comme ça, ben c'est super. Bon après, bien sûr, il y a des critères, des gens capables, hein, craignant Dieu, intègres, qui ne cherchent pas l'argent. Bon, ça je pense quand même. J'ai pas connu ce problème. Moi, ça fait des années que je suis dans l'Église, j'ai jamais vu quelqu'un qui... Enfin, je pense qu'on est au courant dans l'Église que si on donne un coup de main, on va pas récupérer de l'argent. Hein. Il y a un besoin de formation aussi. Moïse, il n'a pas désigné des gens comme ça pour s'occuper des 100, des 1000, des 50, comme ça. Il les a formés d'abord parce qu'il fallait qu'ils connaissent les lois, parce que les gens venaient poser des questions par rapport à la loi, et il fallait répondre en fonction. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent se mettre en place dans les églises, et les jeunes ont leur place. J'ai vu qu'il y avait quelques jeunes ce soir, il y en a trois plus jeunes, un peu moins jeunes là-bas. Et ça me fait plaisir d'ailleurs, je vous encourage à venir aux réunions en semaine. Parce qu'on voit souvent les jeunes que le dimanche matin, et encore. Et c'est bien, je vous encourage. Mais vous avez votre place aussi. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire? On commence par des petites choses. Et puis si on sait être fidèle dans les petites choses, vous connaissez la suite. Hein, Dieu vous donnera des grandes choses à faire, bien qu'on ne recherche pas forcément des grandes choses à faire. On cherche à faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des grandes responsabilités. Dans le peuple d'Israël, ils étaient pratiquement 1 million. Il n'y avait qu'un Moïse, hein, il n'y en avait pas 50. Mais après, il y a aussi des gens à ses côtés qui ont travaillé. On connaît l'histoire de Josué, hein, qui est remarquable aussi. Voilà. Troisième point que je voulais voir avec vous, c'est que dans cette organisation, cette répartition des tâches, dans le travail d'équipe, dans la délégation, il y a une règle d'or qui doit être respectée, c'est la soumission à celui que Dieu a désigné. Ça, c'est parfois difficile, notamment en France. Hein, la soumission, c'est pas trop notre truc. On a même un parti qui s'appelle les Insoumis. Donc on a un peu de mal avec ça. Pourtant, c'est nécessaire. Nous le savons tous. Quand on est nombreux, si au bout d'un moment, il n'y a pas quelqu'un qui tranche, y a, sur certains points, on ne va pas s'en sortir. Hein, parce qu'on a tous des opinions différentes, des tendances, des choses sur le cœur qui peuvent diverger. Mais à un moment donné, il faut qu'on se retrouve. Ça n'arrive pas souvent. Hein. Enfin, moi, en tant que pasteur, ça ne m'est pas arrivé des centaines de fois de dire « bon, ben maintenant, c'est moi qui tranche ». La plupart du temps, on arrive à s'entendre, à se mettre d'accord sans que soit obligé de trancher. Mais il y a quand même le pasteur qui, déjà, est celui qui reçoit la vision pour l'Église, qui la communique. Et puis, s'il y a un conseil spirituel des anciens, ils vont aussi prendre leur part. Et puis quand tout cela est communiqué à l'Église, ben l'Église, d'un seul cœur, doit suivre et avancer vers ce que le Seigneur donne comme direction à l'Église. Et tant qu'on discute, qu'on perd du temps à voir est-ce que c'est bien la volonté de Dieu, est-ce que le pasteur il est bien inspiré, est-ce que ceci, est-ce que cela, et on n'avance pas. Le diable, il est malin. Il nous occupe, il nous fait réfléchir, il nous fait mijoter, il nous fait... Et puis pendant ce temps, on fait rien. Donc c'est important. D'ailleurs, on le voit. Jésus l'envoie les 70. Mais si vous lisez la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait, les 70, après leur mission? Ils sont revenus et ils ont rendu compte à Jésus. Et ils ont expliqué tout ce qu'ils ont fait. Ça, c'est normal. Quand vous travaillez, on est une église, c'est normal. Si vous avez prenez des initiatives. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, par exemple, qui vont faire des visites spontanément. Moi, je trouve ça super. J'espère que je ne suis pas en défaut vis-à-vis de Michael, mais je ne pense pas que ce soit obligé à chaque fois que ce soit organisé par le pasteur. Mais c'est bien d'aller dire au pasteur, je suis allé visiter telle personne. Voilà. Et là aussi, comme dans le principe de Jéthro, si lors d'une visite, vous avez rencontré une situation très difficile, eh bien, vous en parlez au pasteur, forcément, et vous lui demandez d'intervenir. D'accord ? Vous voyez comment ça peut fonctionner ? Et tout ça, ça crée une harmonie, une sécurité, parce que si chacun fait son truc dans son coin, on peut ne pas être mal intentionné, faire des choses dans son coin sans vouloir faire des trucs dans le dos du pasteur ou quoi. Ça peut ne pas être méchant au départ. Mais au bout d'un moment, c'est la désorganisation, puis on peut se rendre compte à un moment donné qu'une personne qui a eu trois visites de trois personnes différentes, elle va avoir trois conseils différents, trois avis différents, et au bout d'un moment, la personne, elle est perdue. Hein, et c'est quand même mieux de partager entre nous. Hein, ça, c'est important. On le voit aussi dans le conseil de Jéthro. Hein, ceux que Moïse a mis en responsabilité doivent lui faire part du travail qu'il fait. Et on le retrouve dans toute la Bible. Timothée rendra compte à Paul, et Paul ira même rendre compte au concile de Jérusalem. Par rapport à certaines choses. Pierre a dû rendre compte sur le fait que les païens étaient baptisés du Saint-Esprit et qu'il les ait baptisés. Il a fallu qu'il rende compte devant les anciens, les responsables de l'église de Jérusalem. Il y a toujours à rendre des comptes. Nous-mêmes, nous avons des comptes à rendre à la pastorale régionale Midi-Pyrénées. Ils sont en droit de nous demander ce qui se passe dans nos églises, est-ce que ça va, s'il y a des gens des églises qui font remonter les choses. On est soumis, on doit être soumis. Et la soumission, c'est comme ça. Et il y a toujours quelqu'un qui est soumis à quelqu'un. Et puis peut-être celui qui sera le plus haut, lui, il est soumis à Dieu. Hein, c'est ce qui était le cas pour Moïse. Il n'avait personne, il n'avait aucun être humain au-dessus de lui, dans sa responsabilité, mais il avait quand même Dieu. Il était soumis à Dieu. Le quatrième et dernier point que je voulais voir avec vous, c'est celui sur lequel je vais rester un peu plus longtemps, c'est que la Bible parle d'une église qui est composée de serviteurs et de servantes. Pas de membres, pas de spectateurs, pas de consommateurs, mais des serviteurs. Les serviteurs qui se lèvent dans l'Église. La première raison pour laquelle on se lève, c'est pour répondre à l'appel du Seigneur. Cet appel du Seigneur, il est simple. On a fait allusion à une phrase que dit Jésus lorsqu'il envoie les 70, il leur dit hein, « La moisson est grande ». Et il y a peu d'ouvriers, priez que le Seigneur envoie des ouvriers. Il y a un autre moment où il dira la même phrase. C'est devant une foule qui est sans berger. Et en fait, le fardeau du Seigneur, c'est les perdus. Vous le savez, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, je suis venu pour les perdus. Et notre fardeau à nous, les chrétiens, ce sont les perdus. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. C'est ça notre fardeau. J'entends beaucoup de gens dire « Oh, vous savez, pasteur, si vous saviez les épreuves, si vous saviez les fardeaux sur mon cœur, etc. » Et il y en a, ils ont de quoi le dire. Hein, je minimise pas. Mais je me dis que notre fardeau, ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être nos problèmes, nos difficultés. Notre fardeau, c'est qu'il y a des gens qui se perdent. Parce que nous avons peut-être des problèmes. Moi, j'en ai. Vous en avez. On a même des problèmes lourds, très lourds à gérer. J'en ai des problèmes très lourds à gérer. C'est pas facile. Mais je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. Et je suis heureux de faire partie des rachetés. Et je sais que comme tous les hommes, j'aurai mon lot de souffrances et mon lot d'épreuves sur mon parcours sur terre. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui y échappe. Des fois, je vois, quand je dis ça, je vois des mains qui se lèvent. Je dis, il y a des gens qui ont de la chance. Ils n'ont jamais d'épreuves, ils n'ont pas de problème. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, merci Seigneur. La Bible dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pas seulement de souffrir avec ceux qui souffrent, mais nous réjouir avec ceux qui... S'il y en a qui sont heureux, qui pour l'instant dans leur parcours n'ont pas de problème, moi j'ai été dans ce cas pendant un certain temps, hein, où voilà, j'avais ma femme, mes enfants, tout se passait bien, bon travail et tout. Et puis commençait à arriver des épreuves, des difficultés de toutes sortes. Hein, et maintenant, je sais ce que c'est souffrir, je sais ce que c'est... passer par des moments très difficiles, etc. Mais je veux demander au Seigneur que mon fardeau, ce ne soit pas mes problèmes, mais que mon fardeau, ce soit les perdus. Amen. On en parlait avec Michael tout à l'heure à table. J'ai prêché dimanche à Colomiers. J'ai été touché par cette phrase en lisant le texte de Jésus qui dit, lorsqu'il est sur le chemin de croix, il y a Simon de Cyrène qui porte sa croix, et lui, il avance, il est certainement meurtri, courbé, parce qu'il a déjà été fouetté, flagellé, on l'a injurié, etc. Il est dans un état difficile. Il marche, il avance, et il y a des femmes qui se frappent la poitrine autour, et il leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Pourquoi ? Parce que Jérusalem, qui a crié « Crucifie, crucifie, crucifie », dans quelques années, la ville va passer par le feu. Parce que quand on s'en prend au Seigneur Jésus, il ne faut pas croire qu'on va s'en sortir indemne, sauf si on se repent. Mais si on ne se repent pas, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et nous savons ce qui arrivera à ceux qui sont loin de Dieu et ceux qui l'injurient, ceux qui le méprisent, ceux qui se moquent de lui, comme c'est le cas de nombreux de nos concitoyens. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les condamner, on va les juger, on va dire quels affreux personnages, ils se moquent de Jésus. Non, on doit avoir le fardeau, Seigneur, sauve-les, qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. C'est ça le fardeau qu'on doit avoir. Oui, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je veux porter ce fardeau. Et croyez-moi, quand vous portez ce fardeau, qu'il y a une âme qui vient à Christ, vous allez connaître une joie que vous n'aurez jamais connue. La joie d'amener une âme de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. La Bible dit que le ciel se réjouit pour un pécheur qui se repent. Vous vous réjouissez, vous ? Oh oui, amen. Ça se voit, hein, vous là, c'est intéressant. Ça l'intéresse. C'est comme ça, moi, ça. Moi, je suis un peu déçu de voir que, en tous les cas, je ne sais pas comment ici, mais les services de baptême, on a la moitié de l'église qui vient. Les gens, ils ne sont même pas heureux qu'il y ait le baptême dans leur église. Ils sont à la pêche ou devant la télé, pendant qu'on est en train de baptiser une personne. Quelqu'un qui s'est converti, une naissance. C'est comme si dans votre famille, votre frère et votre belle-sœur, ils ont un bébé. Eh bien, vous n'avez même pas la maternité pour les voir. Vous habitez à côté, vous n'y allez pas. Ah, il y a une naissance dans la famille. Je vais à la pêche, moi. Mais ça me préoccupe, franchement, les frères et sœurs. Ça me préoccupe de voir que les gens ne viennent même pas au baptême quand il y a des baptêmes dans leur église. Et après, ils prient, « Seigneur, sauve des âmes !» Non, mais il faut qu'on soit cohérent, hein. On est là pour répondre à cet appel du Seigneur. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Jésus va envoyer les disciples avant de remonter au ciel. Avant l'ascension, il va leur dire, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Il va les encourager, prêcher, porter la bonne nouvelle. Voilà notre mission, notre rôle. Et voilà l'appel auquel je dois répondre. Et je suis serviteur pour ça. C'est pour ça que je disais, on est serviteur à plein temps tous. Parce que sur votre lieu de travail, vous devez avoir qu'une seule chose en tête. C'est-à-dire, Seigneur, crée une occasion, une ouverture, une porte, ouvre une porte pour que je puisse parler de toi, partager la bonne nouvelle. Amen. Amen. Je prends toujours cette image, c'est vous avez un copain qui a le cancer, il est en fin de vie, et puis vous découvrez, vous rencontrez un professeur qui vous dit, alors malheureusement c'est pas arrivé, c'est une histoire, c'est une fiction que je vous raconte, et vous rencontrez un professeur en médecine qui est là et qui vous dit « Ça y est, j'ai trouvé le truc pour guérir du cancer. » Et vous n'allez même pas dire à votre ami qui a le cancer que vous avez la solution à son problème. Ce serait grave, non? Vous avez découvert quelqu'un qui peut le guérir, mais vous ne lui dites pas. Mais nous, on connaît celui qui peut sauver les perdus et on ne leur dit rien. Moi, je crois vraiment que l'Église de notre pays, je pense que c'est valable pour l'Occident, elle a besoin de se lever, de retrouver la soif de communiquer l'Évangile, le plaisir de communiquer l'Évangile. Vous allez me dire, oh, c'est dur, pasteur, vous n'êtes pas au boulot. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine séculier et j'ai travaillé dans l'enseignement. Je peux vous dire, s'il y a un endroit où c'est difficile d'évangéliser, c'est bien auprès des enseignants. Mais je peux vous dire que là où j'ai travaillé, il n'y en a pas un seul qui ignorait que j'étais chrétien. Tous le savaient. Et j'ai répandu la bonne nouvelle comme j'ai pu. J'espère laisser une belle trace là où j'ai travaillé. Les gens ont reconnu la qualité de mon travail. Et moi, à chaque fois qu'on m'a félicité pour mon travail, j'ai toujours dit, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Et on est appelé, là où on est, à parler du Seigneur. C'est une évidence. On est appelé à servir. Jésus dira, vous la connaissez cette phrase de Jésus, sur le service. Il dit, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Vous vous rendez compte que c'est Jésus qui dit ça? Moi, cette phrase, elle m'a toujours espanté, hein, comme on dit. Ça m'a toujours scié. Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour vous servir. Lui, Jésus, il dit ça. Et nous, avouons-le, on aime bien être servi. On aime beaucoup moins servir. C'est vrai ou pas? C'est la nature humaine, je ne suis pas en train de vous jeter l'opprobre. Je suis comme ça aussi. Hein. Dans ma nature, quand je suis chez moi, je préfère que ma femme me bichonne, qu'elle me prépare des bons plats, qu'elle s'occupe de tout, plutôt que moi de faire le boulot. Hein. C'est vrai ou pas? On est comme ça. Mais le Seigneur, il nous dit, non, tu n'es pas là pour être servi, tu es là pour servir. Tu es là pour servir. Et dans l'Église, on peut être de ces personnes. Vous savez, on vit dans une société qui nous formate. Qu'on le veuille ou non, désolé de vous apprendre une mauvaise nouvelle, vous êtes formaté par la société dans laquelle vous vivez. Ne jouez pas au héros en disant, non, moi, rien ne me touche, moi, ou pas. Vous savez, on devient de plus en plus égoïste, individualiste, tout ça. Tout ça, ça on y passe tous. Hein. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui vient régénérer notre intelligence, toucher nos cœurs, changer en profondeur, on dérive comme tout le monde. Et on le voit dans l'Église aujourd'hui, il y a des comportements qu'il n'y avait pas quelques années en arrière, des comportements très individualistes, égoïstes, etc., qui n'existaient pas. Pourquoi? Parce que la société a évolué dans ce sens, et malheureusement l'Église suit aussi. Mais Jésus dit... Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour les autres, pour servir. Amen. Il dira même, après que les disciples aient eu des grandes discussions pour savoir lequel était le plus grand, il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. Ouais. Jésus nous encourage au service. Que son nom soit béni. J'aimerais lire avec vous dans Philippiens chapitre 1, verset 1, et puis on lira... un extrait du chapitre 2 aussi. J'ai jusqu'à quelle heure? 11h30, c'est ça, tu m'as dit?
Oui, c'est ça.
Non, sérieusement, dis-moi. On n'en a pas parlé. Ah, 10 minutes encore, c'est bon?
Oui.
Ok. Philippiens chapitre 1, verset 20. Verset 1, pardon. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus. Dans ces deux versets, il y a beaucoup de choses. Déjà, on voit que Paul et Timothée se présentent comme serviteurs de Jésus-Christ. D'accord ? Ils se présentent comme serviteurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas plus hauts que les autres. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des postes différents. Nous, on est formatés, encore une fois, en tant qu'êtres humains. On dit, ah, il y a le pasteur en haut, puis après, il y a les anciens, puis après, on fait l'organigramme de l'Église. Ça, c'est le raisonnement humain. Mais Dieu du ciel, vous voyez qu'il regarde le pasteur là, les anciens là, et on est tous au même niveau, hein, devant Dieu. Oui ou non? On est tous au même niveau. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous, les pasteurs... Mais vous aussi, vous ne devez pas l'oublier. Parce que des fois, les pasteurs, on a l'impression que c'est des surhommes, quoi. Donc si jamais ils font une erreur, alors si un chrétien lambda de l'Église fait une erreur, ça passe. Mais si c'est le pasteur, Mais non, le pasteur, bon, après, il y a erreur, évidemment. Si vraiment il fait une erreur très grave, il va falloir se pencher sur la question. Mais bon, voilà, on est des êtres humains, on est tous au même niveau. Moi, je me mets... Le Seigneur me garde de ça. Moi, même quand j'étais dans mon travail, j'avais des responsabilités. J'arrive pas à me mettre au-dessus des autres. J'arrive pas. C'est comme ça. Je regarde les autres, je les regarde pas comme ça, là. Je les regarde au même niveau. J'ai eu des gens qui étaient tout en bas de l'échelle au niveau. Ben, ils étaient au début, vous savez, ils vous serrent la main. Ils se disent, bon, lui, c'est un chef, il nous méprise. Puis petit à petit, ils se rendent compte que c'est pas le cas. Puis vous avez des ouvertures. Et ils étaient tous étonnés de voir qu'on peut leur parler normalement, être proche d'eux, etc. Moi, j'arrive pas à faire des différences. Je me dis pas, lui, il est ceci, lui, il est cela. Moi, même quand on me dit, on m'appelle pasteur, ça me fait tout drôle parce que j'arrive pas à... Vous voyez ? Je pense que c'est l'état d'esprit que Dieu veut nous donner, ça. De pas... Après, j'ai conscience de mes responsabilités. Dieu m'a appelé au ministère pastoral. Je suis pas là en train de dire, oh ben, je suis comme les autres. Donc, non, je sais ce que le Seigneur m'a demandé. Je sais que c'est sérieux. Je sais, je fais attention à tout ça. Mais après, dans ma relation avec les autres, ben, je me considère comme serviteur. Regardez, ensuite, il est parlé des diacres, des évêques. On voit qu'il y a une organisation dans l'Église. Hein. Et voilà, c'est normal qu'il y ait tout ça. Mais si tout le monde... Vous savez, souvent, les gens, ils disent, moi, je suis sorti des églises parce que les églises, il y a la hiérarchie, c'est une organisation d'hommes, etc. Et ils ont raison. Ils ont raison. Malheureusement, ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'on a créé une hiérarchie, une organisation d'hommes. Mais si, dans l'église, l'organisation, elle est composée que de gens qui ont l'état d'esprit de serviteurs, eh bien, les gens ne seront pas dérangés. Ils n'auront pas l'impression d'être sous une hiérarchie, un carcan. Là, ce qui me touche le plus, c'est la suite dans l'Épître aux Philippiens. C'est cet exemple que Jésus nous donne. Quand vous lisez au chapitre 2, au verset 3, ce qui est écrit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, et considère aussi ceux des autres. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va s'arrêter là. Simplement sur le passage, regardez les autres comme au-dessus de vous-même. Vous savez que c'est un passage qui m'a tordu la tête, ça, pendant des années. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut dire, le Seigneur ? J'essayais, vous savez, des gens que je connaissais qui étaient vraiment loin de Dieu, qui faisaient les pires choses. Je dis, mais Seigneur, je dois le regarder comme au-dessus de moi. C'est pas possible, ça. Quand même, moi, je suis racheté, je te connais, j'essaie de faire le bien, il est pas plus, je peux pas le regarder plus haut que moi. Et le Seigneur m'a fait comprendre, avec la suite du verset, c'est pas la personne qui est au-dessus de moi, mais elle est plus digne d'intérêt que moi. C'est ça que ça veut dire. Et je dois plus m'occuper de ses besoins et de ses intérêts à elle, je dois les voir supérieurs à mes intérêts à moi. C'est ça que ça veut dire, le texte. Enfin, en tous les cas, je crois. Je l'ai vu comme ça et je l'ai reçu du Seigneur. C'est dans ce sens. C'est-à-dire que quand je vois Pierre, je veux que le Seigneur s'occupe de lui, avant même de s'occuper de moi. Je veux que le Seigneur le fasse grandir. Ses intérêts, je veux être à l'écoute de ses intérêts, ne pas penser aux miens, mais penser aux siens. Pourquoi je dois faire ça ? Parce que c'est l'attitude de Christ. Quand il est dit ensuite, là aussi, vous savez, quand on étudie la parole, on découvre des choses, c'est incroyable. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pendant des années, j'ai vu ce passage où je me disais, ah, il faut que tu aies les sentiments que Jésus avait. Donc il faut que tu sois quelqu'un de gentil, il faut que tu sois rempli d'amour. Et je me faisais la liste. Mais lisons la suite ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est quoi avoir les sentiments de Jésus-Christ ? C'est se dépouiller pour être serviteur. Si vous regardez le texte, c'est ça. C'est pas être un gars sympa, rempli d'amour, de joie. Bien sûr, c'est ça aussi. C'est le fruit de l'esprit, ça. Mais là, dans le texte, c'est clairement « Ah, Luc, tu veux avoir les sentiments qu'avait Jésus-Christ ? Eh bien, passe par la mort, dépouille-toi. Dépouille-toi de ton orgueil. Dépouille-toi de ta personnalité. Dépouille-toi de tout ce qui t'est cher, que tu aimes, que ta chair aime. Dépouille-toi de tout ça et deviens serviteur. Serviteur de Christ. Mais si tu es serviteur de Christ, tu es serviteur des autres. Et cet esprit de serviteur a amené Jésus jusqu'à la croix. J'aimerais qu'on le comprenne, mes frères et sœurs. Jésus était dans son ciel de gloire. On ne peut pas s'imaginer. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais moi, ça me dépasse. Jésus dans le ciel. Le pied, le confort total. Pas de maladie, pas de souffrance, pas de problème de facture à payer. Pas de... Rien, il est dans la félicité, là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il vienne là avec nous. Que lui qui est saint, qui est pur, fils de Dieu, il devienne homme. Qu'il ait dans sa tête les mêmes mauvaises pensées que nous, les tentations, tout ce que nous vivons, Jésus l'a vécu. La différence, c'est que lui, il nous a dit qu'il n'a jamais péché. Mais il est dit aussi qu'il peut comprendre parce que lui-même a été tenté comme nous. Il a accepté tout ça, le Seigneur. Et non seulement il accepte ce dépouillement, mais en plus, en tant qu'homme, il va accepter de monter sur la croix et de mourir pour nous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais moi je voudrais vous dire, n'attendez plus. Devant un tel acte d'amour, un double dépouillement, se dépouiller de la gloire divine pour venir dans un corps d'homme, et ensuite monter sur la croix, accepter tout ce qu'il a vécu avant la croix, l'arrestation et toutes les injures, la séance de fouet, etc., le chemin de croix, et ensuite la crucifixion, il accepte tout ça, et au summum de la souffrance de Jésus, c'est pas la souffrance physique, c'est qu'à un moment donné, il accepte de prendre tous nos péchés sur lui, lui qui est parfaitement saint. Ça, c'est la pire chose qu'il a vécu à la croix. Ne croyez pas que Jésus s'est plaint de ses souffrances physiques. Le moment le plus dur pour Jésus, lorsqu'il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné, Père ?», c'est le moment où il porte nos péchés, parce que Dieu, à ce moment-là, se retire. Il est obligé de se retirer. Dieu ne reste pas s'il y a le péché. C'est impossible. Et donc, là, il se retire. Et Jésus accepte de supporter tout ça pour moi. Nous, on a reçu ce salut extraordinaire, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a éclairés sur ces choses. J'aimerais inviter ceux qui ne l'ont pas été vraiment à réfléchir et à donner leur vie au Seigneur ce soir. Mais nous qui avons connu une telle révélation, comment ne pas la partager autour de nous? Comment ne pas partager un si grand amour? Oui, je veux, Seigneur, accepter de me dépouiller. C'est un dépouillement, parfois, que de partager l'Évangile. Ça veut dire qu'on se met à nu. Ça veut dire qu'on peut perdre des relations. On peut subir la moquerie. On peut subir le mépris. Oui, c'est vrai. Mais ne nous plaignons pas trop. Si vous lisez les nouvelles de l'Église persécutée, on n'est pas à plaindre. Hein. On n'est vraiment pas à plaindre. Et des frères et sœurs dans les pays persécutés, alors qu'ils risquent leur vie, ou parfois ils mettent en danger leurs propres femmes et leurs enfants, ils répandent quand même la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à l'appel du Seigneur, c'est tout. Répandre la bonne nouvelle, que le Seigneur nous aide. Ce qui doit être la base de notre service, c'est l'amour. Si vous n'avez pas reçu d'abord l'amour de Dieu, ce qu'on vient d'expliquer dans Philippiens 2, si vous n'avez pas compris cet amour, ce dépouillement de Christ pour vous-même, si vous n'avez pas reçu ça comme une preuve irréfutable d'amour, si vous n'êtes pas rempli de cet amour, alors vous ne pourrez pas aller plus loin. D'abord, connaissez l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui nous transforme, qui nous touche et qui change notre vision, notre état d'esprit. Et si on a cet amour de Dieu en nous, on va être capable d'aimer Dieu. Puisque Jean dit, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Donc quand j'ai reçu premièrement son amour, je deviens capable de l'aimer. Et si je le sers, c'est par amour. C'est pas par obligation. Combien de chrétiens sont dans les églises et servent par devoir? Mais c'est une charge. C'est une charge. Paul l'explique, d'ailleurs, je crois que c'est dans l'Épître aux Philippiens aussi. C'est une charge. Mais si on le fait par amour, quand vous faites quelque chose par amour, vous vous plaignez derrière de l'avoir fait? Ben non. Quand on fait quelque chose par amour, même au contraire, on en redemande. Et c'est la clé. Et quand on a cet amour de Dieu qui nous a touchés, on le reporte d'abord envers Dieu, on lui retourne à Dieu, et ensuite, on le retourne aux autres. Parce que si on aime Dieu, on aime son prochain. D'accord ? Et on l'aime avec l'amour de Dieu. Ça, c'est la clé aussi. Beaucoup de gens font des efforts pour aimer. Mais si ce n'est pas l'amour de Dieu qui est en vous, c'est zéro. Ça vaut rien, parce que l'amour de l'homme, il est intéressé. Je suis sûr, si on fait l'inventaire, qui est copain avec qui se voit régulièrement dans l'église, dans toutes les églises, c'est pareil. Il y a des gens, ils mangent ensemble, ils s'invitent, etc. Mais c'est jamais quelqu'un pourra dire, moi j'ai invité tout le monde dans l'église. Ou c'est très rare. On marche par affinité, par intérêt. Tiens, lui, il a les mêmes avis que moi. Ah, sympa, j'aime bien, etc. C'est l'être humain, c'est comme ça. Mais quand on est touché par l'amour de Dieu, on dépasse tout ça. Et on est capable d'aller vers la pauvre sœur qui est toujours toute seule, à qui personne ne parle. On est capable d'aller vers les nouveaux quand ils rentrent dans l'église, les saluer avec beaucoup d'amour, leur témoigner l'amour de Christ. C'est autre chose l'amour de Dieu que l'amour humain. On peut avoir beaucoup d'amour. J'ai connu des gens non chrétiens qui ont beaucoup d'amour. Il y a même des gens qui sont capables de partir à l'étranger dans des œuvres caritatives, faire des choses extraordinaires avec l'amour humain. Mais l'amour de Dieu, c'est bien plus grand. Ça dépasse tout ça. Amen. Et c'est cet amour qu'on veut être habité, mes frères et sœurs. Si on est habité de cet amour, déjà, les relations entre nous dans l'Église vont être encore meilleures. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes. Je n'ai pas de mauvais écho de Moissac. Je trouve que ça se passe bien. C'est une Église en paix, tant mieux. Merci Seigneur. Que ça dure, mais que ça s'améliore. Que ça se bonifie. Et qu'il y ait encore plus d'amour. Un amour qui dépasse l'amour humain. C'est-à-dire que je suis capable d'aller vers un frère, une sœur, vers qui je ne serais jamais allé si je n'avais pas été chrétien. Soyons honnêtes. Dans les lieux de travail, il se passe la même chose. Il y a des gens, ils sont super amis, ils sont capables, quand un d'entre eux a un problème, de déplacer ciel et terre pour l'aider. Mais c'est des amis par affinité. Mais est-ce que vous êtes capable de déplacer ciel et terre pour le collègue de travail du bureau du fond à qui personne ne parle, qui n'a pas un très bon caractère, qui n'est pas trop sympa? Est-ce que vous êtes capable de faire la même chose pour lui ou pour elle? Non. Moi, je ne suis pas capable. S'il n'y a pas l'amour de Dieu qui vient dans mon cœur et qui m'aide à déplacer tout ça. C'est à ça qu'on est appelé, mes frères et sœurs. Une dimension extraordinaire, surnaturelle. On n'est pas appelé à vivre les mêmes choses que les autres. Souvent, on porte tout et on essaie de faire les choses par nous-mêmes. Mais le serviteur qui sert par amour, il est dépendant à 100% du Seigneur. D'accord ? C'est par amour qu'il travaille. C'est en étant conscient de ses faiblesses, mettant sa confiance dans le Saint-Esprit qui peut agir au fond de lui. Et du coup, on est libre. Libre de la condamnation, de l'échec, etc. Vous savez, quand vous commencez à porter la bonne nouvelle, c'est dur. Parce que des échecs, vous allez en avoir. Hein. Des gens à qui vous avez prêché l'évangile et qui vont vous dire qu'ils s'en moquent, vous allez en avoir. Et là, vous reportez, vous dites, oh, terminé, moi, je ne rends plus de témoignage. Terminé. Non! On n'est pas dépendant de l'échec parce que c'est l'amour qui nous fait travailler. Est-ce qu'un papa et une maman, elle arrête d'aimer son enfant parce qu'un jour il l'a déçu? J'espère que non. Parce que enfin, si vous commencez à peine avec vos enfants, je vous annonce qu'ils vont vous décevoir. Soyez tranquille, ça vient, ça va arriver. Ils vont vous décevoir. Mais vous n'arrêterez pas de les aimer. Vous n'arrêterez pas de les aimer. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Et on va continuer à aimer même ceux qui méprisent l'évangile, même ceux qui se moquent de nous. On va continuer à les aimer. Et on va croire que les semences qu'on dépose, elles appartiennent au Seigneur. Et qu'à Dieu, tout est possible. Et le temps a passé, donc je vais m'arrêter. Mais je pourrais vous rendre des témoignages de gens à qui j'ai parlé. Au début, c'était catastrophique. Et puis vous vous rendez compte qu'avec le temps, la semence a porté. Et ces gens ont été interpellés. Faisait les malins parce qu'il y avait du monde. Vous savez, quand vous rendez témoignage, il y a plusieurs personnes. Vous allez avoir des éclats de rire, des moqueries. Mais parfois, c'est ceux qui ouvrent le plus la bouche qui sont le plus touchés. C'est une forme de protection, mais en fait, quand ils rentrent, qu'ils sont tout seuls face à eux-mêmes, ils pensent à vous, ils disent, ce gars-là, cette fille-là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que moi, j'ai pas. Et on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens quand on leur a parlé du Seigneur, après, quand ils sont tout seuls pour réfléchir. Et on est étonné. Et des fois, on a des retours, moi j'en ai eu, des années après, parfois, des gens qui vous disent, oui, quand tu m'as dit ça telle fois, eh bien, ça m'a bouleversé, ça m'a touché. Et vous avez l'impression que c'était tout l'inverse. Ça, c'est le travail du Seigneur. Lui, vous savez, il a le temps. Nous, on est toujours pressés, on voudrait qu'à chaque fois qu'on dit Le Seigneur t'aime, donne-lui ta vie. Les gens, oh, ils tombent par terre et... Mais non, mais ça ne marche pas comme ça. Mais le Seigneur agit. Et il est dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Et moi, quand je lis ça dans le prophète Ésaïe, je dis amen. Et ça m'encourage pour témoigner. Amen. Ça m'encourage pour prêcher, Kérusso, porter la bonne nouvelle autour de moi. Voilà à quoi nous sommes appelés. Le service, tous. Si c'est le pasteur seul qui doit amener les âmes à Christ à Moissac et les environs, ben votre église ne va pas grandir vite. Moi, je vous le dis tout de suite. Mais si tout le monde s'y met, on peut avoir des surprises. Ce matin, je lisais avec mon épouse, on suit des prédications là, de prédicateurs américains qui enseignent les leaders. Et un gars, il disait, il est arrivé dans une église, il a formé une équipe d'anciens et il les a formés à l'évangélisation. Et au bout de, je crois que c'est un an et demi, ils ont amené 1200 personnes au Seigneur. Donc on vous lit ça, vous dites, ok. Bon, certainement, c'était dans une ville beaucoup plus grande que Moissac, d'accord. Mais je crois que le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. Mais il faut qu'il y ait des gens qui aient un cœur à l'évangélisation. Moi, j'ai l'impression que les chrétiens ont perdu ce feu. On rentre chez soi, on s'occupe de notre petite vie. Le dimanche après-midi, il n'y a pas de réunion. Chouette, on va pouvoir se reposer. Non. Inviter des personnes. Moi, je ne suis pas pour le jour du sabbat, mais enfin, il y a quand même, on peut quand même donner un jour au Seigneur dans la semaine. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne 2 heures. Un culte, ça dure 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche après-midi? Inviter des personnes. Inviter des personnes. Collègues de travail, voisins, invitez-les à manger, sympathisez avec eux. Et priez le Seigneur qu'il ouvre des portes pour que vous puissiez leur prêcher la bonne nouvelle. Vous devez penser qu'à ça, mes frères et sœurs. Parce que Jésus ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'au perdu, tout le temps. Tout le temps. Invitez. Moi, je termine avec ça. J'ai passé des années hyper investi dans mon église avant d'être pasteur. Mais hyper, hyper investi. Et je me rends compte avec le recul que je ne me suis pas occupé de tous les gens qui avaient autour de moi, mes voisins, mes collègues. Je ne m'en suis pas occupé parce que j'étais trop pris par le programme d'église. Et je suis passé à côté de ma mission qui était de prêcher la bonne nouvelle à tous ceux que je rencontrais. Je l'ai fait. Vous savez que j'étais chrétien, etc. Mais j'aurais dû passer plus de temps. J'aurais dû les inviter. J'aurais dû travailler pour amener ces âmes à Christ. Et on est tous responsables de le faire à chacun à notre niveau. Je ne crois pas que vous soyez débordés par le programme d'église ici à Moissac. Il y a 2 réunions par semaine. Alors, il y a la réunion du dimanche. Dimanche après-midi, il y a des réunions? Non. Donc vous avez du temps. Donc ce temps, vous pouvez l'utiliser pour vos loisirs, pour vivre comme tous les hommes, ou vous pouvez dire, moi j'ai une mission, c'est d'amener les âmes à Christ. C'est ça être serviteur. C'est ça être serviteur. Je sers une cause, celle du royaume de Dieu. Et je vous encourage à prier que Dieu vous remplisse cet amour, ce même amour qu'il a eu quand il a vu cette foule, il a dit, il était ému de compassion parce qu'il a remarqué qu'il n'avait pas de berger. Est-ce que vous avez cette même compassion lorsque vous déambulez dans un supermarché, par exemple, où il y a des tas de gens autour de vous, quand vous allez sur votre lieu de travail? Est-ce qu'il y a cette peine, ce fardeau, parce que ces gens ne sont pas au Seigneur? Et une bonne question. Le Seigneur veut lever une armée d'ouvriers et d'ouvrières. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur, tu n'as jamais appelé quelqu'un à travailler tout seul. Tu veux qu'on se lève tous. Tu veux que tous, on soit prêts à te servir. Je te prie pour cette église, Seigneur. J'ai prêché en toute liberté, je ne sais pas où ils en sont, et je ne connais pas les personnes individuellement. Seigneur, toi tu connais, tu sais celui qui a besoin d'être renouvelé dans cette compassion pour les âmes perdues. Tu sais celui peut-être ou celle qui souffre, et qui s'est fait piéger par l'ennemi, qui ne pense qu'à sa souffrance, qui ne tourne qu'autour de ses problèmes, et qui a oublié sa mission. Seigneur, je te prie de lui révéler ce soir par ta grâce que si elle s'occupe du royaume de Dieu, la Bible dit que tu vas t'occuper de tous ses problèmes. Seigneur, oui, donne-nous cette intelligence spirituelle. On est limité humainement, on court au plus pressé, on regarde à nous-mêmes. Mais Seigneur, oui, que ton esprit nous transforme pour qu'on soit captivé par la question du salut des âmes. que tu nous donnes ta sagesse, qu'on ne se précipite pas non plus, qu'on ne fasse pas les choses n'importe comment, mais que ta sagesse nous accompagne, mais aussi, il est dit que ton esprit nous donne également la force, la puissance et beaucoup d'amour. Et c'est ce que je veux recevoir dans mon cœur ce soir. Cette force, cet amour, cette puissance, et non un esprit de timidité, comme il est dit à Timothée. Seigneur, oui, encourage mes frères et sœurs, bénis cette église. Nous prions, Seigneur, nous condamnons toutes les mauvaises réflexions qui disent, oui, ici c'est un endroit difficile, ici c'est un lieu rural, c'est une petite ville, alors c'est difficile. Non, Seigneur, nous voulons chasser toutes ces phrases. Et nous voulons dire à Dieu, tout est possible. Et tu peux faire lever un peuple nombreux ici à Moissac, à Castelsarrasin et tous les environs. Seigneur, oui, nous levons devant toi ce soir. Nous disons, Seigneur, sers-toi de nous. Sers-toi de nous pour que le plus grand nombre soit sauvé. Nous pensons à Jonas qui ne voulait pas s'occuper de Ninive parce que c'était une ville qui avait une mauvaise réputation. Et quand il y est allé, toute la ville s'est convertie, même le roi. Seigneur, nous voulons croire que tu peux convertir cette ville entière. Oh Seigneur, oui, donne-nous ta vision. Donne-nous de voir l'impossible devenir possible. Parce que c'est pour toi que nous combattons, Seigneur. C'est toi que nous servons. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Bénis Michael et Laure aussi. Encourage-les, fortifie-les. Merci pour tous ceux qui travaillent à leur côté. Fais-en lever d'autres encore, qui aient des équipes qui se forment. Des gens motivés pour l'enseignement des enfants, pour l'évangélisation, pour tout ce qu'il y a à faire, Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle église que tu aimes et que tu veux faire aller de l'avant. Je te rends grâce, je te bénis dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.